Merci Olivier, merci pour cette culture de l'honneur qu'on vit dans cette église. Merci Mathieu. Il y a un mois et demi de ça, Mathieu m'a appelé pour prêcher à Connect Grenoble. Et c'est la première fois, je ne suis pas quelqu'un qui prêche souvent, hein, mais c'est la première fois où on m'appelle pour prêcher, où je ne dis pas « attends, je vais réfléchir, tout ça ». J'avais tout de suite un thème sur le cœur. Un thème sur le cœur parce que depuis quelques temps, avec ma femme, la plupart des gens qu'il y a devant nous sont des gens qui ne vont pas bien, sont des gens qui sont découragés, sont des gens qui se font voler leur joie, voler leurs promesses, voler leurs rêves. Et en même temps, cette semaine-là, il y a ma fille qui rentre du lycée. Alors, j'ai une fille qui est ado, hein, je ne sais pas si vous avez des enfants ados. Donc, soit elle rentre, elle me dit « bonjour papa », elle va dans sa chambre, je ne la vois plus la soirée. Soit là, elle se soit à côté de moi, elle me dit « papa, comment ça va? T'as passé une bonne journée ?» Et quand elle dit « ouh, elle a besoin de parler, elle. » Puis elle commence à ouvrir son cœur, elle me dit « mais papa, les jeunes, on ne va pas bien. On ne va pas bien, moi je vis ça, et puis tous mes amis. » Puis elle commence à m'expliquer tous ses amis là, qui viennent souvent à la maison et qu'on connaît très bien et qui font des mauvais choix, qui aujourd'hui récoltent un peu ce qu'ils ont semé. Et ça m'a fait de la peine, ça m'a fait de la peine. Et puis voilà, et puis en même temps dans le boulot, je suis dirigeant de société aujourd'hui, j'ai une soixantaine d'employés, et je vois que c'est compliqué pour eux. Je vois que c'est compliqué pour eux dans leur vie de famille, je vois que c'est compliqué pour eux à joindre les deux bouts. J'ai des fabricants qui m'appellent même d'Asie en me disant « mais qu'est-ce qui se passe en Europe? C'est compliqué, on ne croit plus à l'Europe et tout. » Et je me dis « non, non, là, faut que je presse sur le découragement. » Parce que même les enfants de chrétiens, je trouve qu'on se fait voler beaucoup de choses. Et à un moment, le Saint-Esprit dont Mathieu nous a parlé le week-end dernier pour Pâques, c'est le même qu'on a aujourd'hui, normalement. C'est le même qu'on a reçu parfois dans notre cœur. Et je trouve que des fois, on n'utilise pas cette autorité et cette puissance que l'on a à chacun d'entre nous. Ok ? Donc je voulais voir ce matin, à travers deux, trois textes que j'ai choisis dans la Bible, ce qu'on peut tirer comme conclusion au niveau du découragement. J'aime bien aussi désacraliser le rôle de celui qui prêche. J'aime bien être comme ça en disant que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas théologien, mais j'aime Jésus, j'aime les rapports que j'ai avec lui, j'aime le rapport avec ce Saint-Esprit qui est ce matin-là pour chacun d'entre vous. Donc, peu importe la forme, je vais peut-être bafouiller, je vais peut-être me tromper de texte, me tromper de verset, peu importe. Mais qu'on puisse croire, et à partir de maintenant que vous êtes là, que vous n'êtes pas là pour rien. Que Dieu a une rencontre avec chacun d'entre vous. Peut-être qu'il y en a qui viennent pour la première fois, ce n'est pas un hasard si vous êtes là. Donc commencez à ouvrir votre cœur, commencez à réfléchir de la manière dans laquelle vous êtes arrivé, dans quel état d'esprit, et croyez vraiment que Jésus a quelque chose à vous dire ce matin. Il n'y a pas une personne qui veut laisser de côté ce matin. Amen. Allez, je veux vous parler d'une histoire que j'aime beaucoup, hein. Si vous êtes pote avec moi, je vous ai souvent raconté cette histoire, peut-être saoulé avec cette histoire, parce qu'on peut tirer beaucoup de conclusions avec cette histoire. C'est l'histoire des 12 espions. Vous savez, à un moment, Moïse a fait sortir son peuple d'Égypte. Dieu a suivi tout son peuple à travers le désert, l'a fait traverser de la mer Rouge. Il lui a donné la manne dans le désert, tout ça, l'a vraiment accompagné. Et à un moment, Dieu va demander à Moïse de choisir 12 espions pour aller choisir, parce qu'il avait promis une terre à son peuple, pour aller voir un peu ce qui se passait sur cette terre. C'est le pays de Canaan. Donc on arrive à un moment, et on va voir sur les 12 espions, il y en a 10 qui vont faire une certaine analyse, et il y en a 2 autres qui vont voir les choses un peu différemment. Et on va voir un peu ce qui se passe. Au bout de 40 jours, les envoyés eurent fini d'explorer le pays et firent demi-tour. Ils vinrent auprès de Moïse, d'Aaron et de la communauté d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran, et ils les informèrent de tout ce qu'ils avaient vu. « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous, et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré, et ils disaient, « Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus, ils sont de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis, et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. » On parle de promesses, on parle de cadeaux que Dieu est censé faire à son peuple. Nombre 13, pardon. Mais je croyais que vous connaissiez votre Bible par cœur, là, au premier rang. Oh, les leaders, là. Je suis désolé. Et si les 10, voilà, donc c'est censé être un cadeau, on voit voilà comment ils ont analysé la chose. Et s'il y en a 10 qui parlent comme ça, il y en a deux autres, Josué et Caleb, qui ont une autre version de la situation. Quant à Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Yéphouné, deux de ceux qui avaient exploré le pays, profondément bouleversés, ils déchirèrent leurs vêtements et dirent à la communauté, « Le pays que nous avons exploré est un excellent pays qui regorge de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduit dans ce pays et nous le donnera. Seulement ne vous révoltez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, les dieux protecteurs les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Ne le craignez donc pas. » Comment c'est possible? Les 12 sont partis en même temps, sont partis le même nombre de jours, ont vu les mêmes personnes, ils sont restés ensemble. Il y en a 10 qui découragent le peuple et 2 qui encouragent le peuple. Regardez les 10, l'analyse qu'ils font. Ils proclament la supériorité de leurs adversaires. Ils ne voient que le mauvais côté des choses. À aucun moment, ils parlent de lait et de miel. Ils exagèrent les faits, mais surtout la chose la plus importante, à aucun moment ils n'intègrent Dieu dans ce qu'ils voient. À aucun moment. Et ça, les amis, c'est typiquement comme on est quand on est découragé. On écarte Dieu de nos pensées et hop, les mauvaises pensées arrivent. Et hop, ah non, mais là, c'est pas possible. Là, je suis pas capable. Là, je suis pas truc. Et on s'éloigne de la volonté de Dieu. On s'éloigne des rêves que Dieu a prévus pour nous. On s'éloigne des promesses. Mais si 10 ont réagi comme ça, regardez les deux autres. Qu'est-ce qu'ils mettent en premier? Si Dieu est avec nous, les amis, qu'est-ce qu'on craint? Oui, ils ont vu les obstacles, ils ont vu la ville qui est fortifiée, ils ont vu les géants. Mais ils mettent en avant Dieu qui est avec eux parce que c'est une promesse de Dieu. La présence de Dieu délivre de la crainte, les amis. La présence de Dieu délivre de la crainte. Je ne sais pas si vous connaissez la suite de l'histoire. À votre avis, le peuple, il a écouté les 10 ou il a écouté les 2? Je vais vous lire la suite de l'histoire. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestèrent contre Moïse et Aaron, leur disant, « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. » Vous vous rendez compte, hein, ils veulent retourner comme esclaves. « Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats. Nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. » Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se dirent alors les uns aux autres, nommons un chef et retournons en Égypte. C'est Nombre 14. Et un peu plus loin, tout le peuple parlait de lancer des pierres pour les tuer. Il parlait de José et de Caleb. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça? C'est contagieux le découragement, les amis. C'est contagieux. 10 personnes ont influencé tout un peuple. Comment vous êtes quand vous êtes découragé, vous? Sur les 12, vous aurez été côté 10 ou côté 2? Quand vous n'allez pas bien, vous êtes comment? Ça fait réfléchir cette histoire quand même. Hein, et vous allez me dire, ça dépend un peu des fois. Ouais, il y a des fois, je suis du côté des 2. Mais il y a des fois, j'oublie un peu le Seigneur et je suis du côté des 10. Les amis, au bout d'un moment, il faudra qu'on prenne position. On l'a chanté. On est des enfants du roi des rois, on a une autorité. Si Dieu nous fait des promesses au bout d'un moment, il faut dire qu'on est des enfants du roi des rois et qu'on vive avec cette autorité pour qu'on évite à tous les gens autour de nous de se décourager. Et on a des mauvaises pensées qui arrivent et je suis habitué à le dire, on ne peut pas empêcher les corbeaux de venir voler, mais on peut les empêcher de faire leur nid. Et au bout d'un moment, il faudra qu'on ait comme exemple Jésus, parce que s'il y en a un qui aurait pu se décourager, un seul, c'est bien Jésus. Jésus, il aurait pu se décourager quand il prie pour 10 lépreux qui sont tous guéris, qu'il n'y en a qu'un qui le remercie. Il aurait pu se décourager du comportement de sa famille qu'il ne reconnaît pas spécialement, sur même ses apôtres qui des fois l'ont suivi mais ne l'ont pas reconnu une fois qu'il a été ressuscité. Il aurait pu se décourager qu'à la croix, après 3 ans et demi de ministère, il n'y avait quasiment personne. Et lui, parce qu'il ne s'est pas découragé, il a pu derrière encourager les autres. Tout le long de son ministère, ça a été quelqu'un qui a encouragé. Il a encouragé la femme à la perte de sang. Il lui a dit, vas-y, tu es guéri, prends courage. Il a encouragé les gens à travers les péchés, où il leur a dit, vas-y, ne pêche plus, prends courage. On a besoin, les amis, de vaincre ce découragement parce que Dieu a besoin de nous pour encourager les autres. Et je veux te dire, ça, c'est important. C'est la base de tout parce que le royaume de Dieu a besoin des gens comme vous. Parce que souvent, et je vous le dis, vous êtes la meilleure personne pour la personne que Dieu met devant vous. Et au bout d'un moment, si on est là et qu'on raconte nos problèmes à des gens qui ont des problèmes, c'est pas bon. Mathieu l'a dit le week-end dernier, et j'aime le dire, on doit avoir des gueules de sauvés, les amis. On doit avoir des gueules de sauvés. C'est pas rien d'être converti, c'est pas rien de dire alléluia, gloire à Dieu, tout ça, de dire et tout, on est le fils des rois, fille des rois. Mais au bout d'un moment, de l'intellect, il faut que ça passe dans le cœur et il faut le vivre. Cette puissance, il faut qu'on la vive. Vous savez, si je peux vous parler aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, Dieu a permis des circonstances et mettre une personne devant moi qui m'a parlé de sa foi. J'avais pas du tout prévu d'être là. J'avais pas prévu du tout, j'étais pas prédestiné, selon moi, à être là aujourd'hui. J'ai eu un passé, pas tragique, mais un peu spécial. Ma mère s'est mis un coup de fusil, j'étais tout petit. Je suis allé vivre chez ma tante et mon oncle avec ma sœur qui avait 6 enfants. Avec un père qui était plutôt absent, qui j'ai jamais senti d'amour de sa part. Je n'ai pas de souvenir qu'il m'ait pris dans ses bras, qu'il m'ait dit « je t'aime ». Il était plutôt dur avec moi, il était violent, ouais, de plus en plus violent dans tous les propos. Puis à 17 ans, je l'ai retrouvé assassiné devant moi. Il avait pris un coup de fusil. Et vous savez, quand à 17 ans, votre mère se suicide, vous vous dites déjà « elle n'avait rien à carrer de moi ». C'est comme ça qu'on raisonne quand on a 17 ans des fois. On ne pense pas aux faiblesses, à la tristesse des personnes. Elle ne m'aimait pas, elle a préféré mettre fin à ses jours. Quand à 17 ans, votre père avec qui vous n'avez rien créé, ben vous ne le verrez plus et tout ça, vous vous dites, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie qu'on me propose? Alors moi, j'ai décidé que j'allais vivre ma vie. J'ai arrêté mes études quelques mois après et je me suis dit, je vais mener ma vie. Et j'ai trouvé un boulot parce qu'un pote à moi cherchait un commercial. Et voilà, j'ai toujours eu l'ADN du commerce, j'aimais bien vendre, j'aimais bien faire les marchés. Il me dit, tiens, je te fais une voiture, tu fais ta clientèle en France et tu vas où tu veux. Et je me suis dit, je vais gagner de l'argent, je pars toutes les semaines du lundi au vendredi, je suis commercial, et le week-end, je ferai la fête. Et quand j'en aurai marre, eh ben, je me tirerai une balle. Mon objectif de vie, c'était de vivre jusqu'à 30-35 ans. Je m'étais dit 35 ans maximum. Et j'ai mené cette vie-là pendant des années où j'étais... Voilà, je travaillais la semaine et j'étais le bon vivant, le bringer le week-end. Sauf que je commençais à glisser de plus en plus. Il y avait tous les jeunes du village qui venaient dans mon appartement et je tombais dans la débauche. Je faisais que des mauvais choix à tous les niveaux. Hein. Pour vous expliquer, à chaque apéro, je buvais jamais moins de 25 pastis, vous voyez. C'était pas 2-3 pastis. Et j'étais alcoolisé du vendredi au dimanche. J'allais en discothèque. Et voilà, et même avec les femmes, je choisissais que des femmes ben, souvent mariées, hein, comme ça, il n'y avait pas d'attache, il n'y avait rien. Et au plus ça va, au plus je glissais dans la débauche, et j'encourageais même hein, à des gens à aller dans la débauche. Je faisais de temps en temps des voyages en sac à dos, de partout dans le monde, et je m'étais fait mon petit cocktail de religion, où je pensais que du moment où j'étais bien avec les gens, et ben voilà, j'allais dans des pagodes bouddhistes, je pouvais aller dans des mosquées, ils venaient chez moi, il y avait Shiva, il y avait le Coran, il y avait tout ça. Je me dis, du moment où j'étais bon avec les gens, hein, vu que les jeunes venaient à la maison et tout, et ben il n'y avait pas de problème, c'est comme ça que je venais ma vie. Et puis le jour où j'en avais marre, je mettrais fin à mes jours. C'était comme ça. Sauf que Dieu en avait décidé autrement, et à un moment où je devais déménager, une fille qui connaissait mon contexte de vie par cœur m'appelait parce qu'elle savait que je donnais ma machine à laver. Et c'est tout bête. Et j'avais prévu un voyage en Israël. Je lisais un bouquin sur les traditions juives que je tombe au moment où elle m'appelle. Elle me dit, c'est quoi ce bruit? Je lis un bouquin sur les traditions juives. Elle me dit, mais tu lis, toi? Elle me dit comme ça. Je dis, bah ouais, moi je crois que voilà, je pars là-bas, puis je crois qu'il y a quelque chose. Et voilà. Et elle est surprise. Je lui dis, toi, ça va? Ouais. Et elle commence à me parler de son Jésus. Elle me dit, ah, tiens, c'est marrant. Puis la fille est plutôt mignonne et je lui dis, ben on peut se voir à l'occasion, tu peux m'en parler. Et puis, petit à petit, voilà, on commence à discuter. Elle commence à s'intéresser à moi. Elle commence à s'intéresser à mes souffrances. Elle n'est pas arrivée à coups de verset, à coups de tout ça. Elle a commencé à avoir des paroles de connaissance, à me dire des choses que personne ne savait. Et j'étais assez déstabilisé. Et puis, elle me dit, écoute, j'ai mon pasteur du Canada là, qui fait une convention en Israël. Tu as prévu d'aller là-bas. C'est marrant, mais ça serait bien que tu y passes. J'ai dit, moi, rester avec les chrétiens, même si je commençais à réfléchir, à penser qu'un Dieu pouvait me chercher, ça ne me branchait pas. j'appelle quand même. Je vais quand même à cette convention. C'était une convention où il y avait l'Église Nouvelle Vie de Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y avait Samuel Peter Schmidt, il y avait des Jacques Elbaz, il y avait des pasteurs d'Afrique. Et le thème, c'était « Vous recevrez une puissance ». J'arrive à cette convention. Je suis une première semaine en sac à dos et j'arrive à cette convention. Et je vois plein de gens. Il y a 200-300 chrétiens. La louange qui commence. Vous savez, le premier truc qui m'est traversé la tête, c'est quoi ces barges ? Je voyais la louange, je voyais les gens lever les bras et shabadabada et shabadabada. Je dis, c'est quoi ça ? Et vous savez, vous êtes là, vous regardez à droite, vous regardez à gauche. Et, ça. Et je connaissais cette fille, je dis, c'est pas possible qu'elle m'a envoyé dans une secte, c'est pas possible. Et là, j'ai dit, je pars, je reste, je truc et je reste. Et à un moment, il y a le pasteur qui rentre sur scène, c'est Samuel Peter Schmidt. Il commence à prêcher, il s'arrête, il dit, il y a quelqu'un dans ce lieu, il ne sait pas ce qu'il fait là. Il a vécu ça. Il a vécu ça, il a vécu ça. Et là, je commence à pleurer. Je dis, c'est moi, je regarde partout. Je me mets à pleurer. Il me dit, Dieu le cherche, c'est son moment. Je me mets à genoux, je ferme les yeux. Je me retrouve en face de Jésus qui est sur un mur. Il me dit, ouais, Brice, t'as fait ça. Mais ça, t'as aussi fait ça. J'ai toute ma vie qui a défoulé. Et là, je dis, ok, Seigneur, je ne veux pas foncer dans le mur. Je veux te suivre. Je me suis relevé. J'ai dit, Seigneur, ma vie va changer. J'ai appelé, j'ai une meilleure amie qui m'a toujours suivi à travers ma débauche, où elle vivait chez ses parents, je l'appelais à 3h du matin, j'étais défoncé et tout. J'ai dit, écoute, Christelle, je t'appelle d'Israël, je viens de vivre ça, je vais changer de vie, tu peux raconter à tout le monde et tout. Et elle m'a dit, écoute, Brice, tu nous faisais tellement peur, tu faisais tellement n'importe quoi à la fin que, mais moi, les gens ne vont peut-être pas comprendre, je serai toujours à tes côtés. J'ai dit, waouh. J'appelle mon ami qui m'a parlé du Seigneur. J'ai dit, écoute, voilà, je viens de vivre ça. Je viens de vraiment donner ma vie au Seigneur et je vais vraiment changer. Bien sûr, elle se met à pleurer, elle se met tout ça. Je rentre, on se voit à Valence. Et pour la petite histoire, cet ami qui m'a amené au Seigneur et à côté de moi aujourd'hui, c'est devenu ma femme. Hein, c'est... Une parole d'encouragement peut changer une vie. Et je veux l'honorer parce qu'elle n'est pas arrivée à coups de verset, elle est arrivée avec les yeux de Jésus. J'avais plein d'étiquettes, moi, hein, sur moi. Et elle les a décollées. Et elle s'est intéressée à mes souffrances. Et ça a tout changé. Vous savez, je suis allé à l'église méthodiste à côté une fois, parce que par défi, je lui ai dit, en sortant de boîte, je lui avais dit, ouais, mais j'irai à ton église et tout. Je tombe sur ma femme de ménage et sur une fille qui était avec moi en terminale. Ma femme de ménage, comme je partais toutes les semaines du Normandie, je laissais tout dans l'état. Brice, qu'est-ce que tu fais là ? Et tout ça. Il m'a dit, le nombre de fois où j'ai prié dans ton appartement, où je jetais tout, je retrouvais des trucs, je jetais tout et tout ça. Je suis tombé sur une fille qui était avec moi en terminale. Je suis allé me présenter, je lui ai dit, tu te rappelles, je suis moi. Je lui fais la misère à cette fille, hein, parce que moi, les chrétiens, je leur faisais des gestes obscènes, des trucs, j'aimais bien les embêter. Hein. Et la fille me dit, Brice, c'est toi, mais je te croyais mort ou en prison. C'est ce Dieu-là que j'aime, en fait. Je ne sais pas, c'est ce Dieu-là qui est vivant, c'est ce Dieu-là qui agit, c'est Dieu-là. C'est incroyable. Et prenez l'exemple de Mélanie qui est venue vers moi. Elle a vu des fins de soirée, elle connaissait ma vie par cœur. Il faut quand même avoir du courage pour se marier avec un gus comme moi. Moi, si Rose, ma fille, me ramène un gus comme ça, mais je meurs. Et Seigneur, protège-moi. Vous comprenez ? On a un Dieu qui a des solutions à chacun de nos problèmes. Je priais pour ce culte de ce matin parce que Mathieu m'avait demandé justement, et ça tombait bien après Pâques, de remettre le même message que j'ai eu à Grenoble. Et je disais à Dieu, montre-moi quelque chose qui est pour connecter. Montre-moi ça pour Montélimar. Et je vais vous le partager. Et ma femme a confirmé parce qu'elle avait reçu la même chose. Et je vois tout ce qui s'est dit dans les prières. C'est le mot solitude. C'est le mot solitude que j'ai reçu pour cette église, qui a des gens seuls. Alors on peut être seul, vraiment seul, rentrer seul à la maison, tout ça. C'est dur la solitude, hein, c'est dur la solitude. Mais on peut être seul dans son couple, on peut se sentir seul dans son boulot, on peut se sentir seul à l'église. Et moi je veux te dire ce matin, si sur la croix, à un moment, Jésus a pu dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est pour qu'aujourd'hui tu ne sois plus abandonné. Si à un moment il a pu dire « Père, j'ai soif », c'est qu'à un moment sur la croix il a tout accompli. Le voile s'est déchiré, qu'on a accès à la source de toute chose. Tout est accompli. Et si tu te sens abandonné, que maintenant tu commences à proclamer, que tu es un fils ou une fille. Et si Dieu a tout accompli, tu as accès à tout. Et qu'à partir de maintenant, au lieu de prier, Seigneur, pourquoi ? Seigneur, où es-tu ? Seigneur, tout ça, c'est merci Seigneur, parce que tu as une solution à chacun de mes problèmes. Qu'on soit animé par l'esprit de Josué et de Caleb. C'est exactement cet esprit-là, on met Jésus en avant, il y a des promesses pour moi, c'est pas facile Seigneur, mais voilà. Et vraiment, j'ai ce truc où Jésus est devant vous et là, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai eu la grâce d'être aumônier de prison pendant des années parce qu'un matin, j'achète le Dauphiné et voilà, et un gars avec qui j'étais en terminale venait de tirer sur un jeune que j'avais entraîné au foot pendant des années dans une boîte où j'allais tout le temps et j'ai explosé en sanglots et Mela est arrivée à ce moment-là et j'ai dit, tu te rends compte, ben voilà, si je connaissais, il venait tirer sur l'autre et il y en a un qui va prendre 15 ans, l'autre qui entre la vie et la mort et moi, je fais quoi ? Et ça m'a tellement appris d'aller rencontrer ces détenus, de m'asseoir à côté d'eux et dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Dieu a toujours une solution. On l'a dit tout à l'heure, Dieu travaille en silence, mais il est là. Mais il est là. J'ai appris il n'y a pas longtemps, j'écoutais un message de Patrice Martorano qui expliquait que le livre d'Esther, vous connaissez la particularité du livre d'Esther ? Il a une particularité que les autres livres n'ont pas. À aucun moment le nom de Dieu est annoncé. Je ne savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Sauf que Dieu est dans l'histoire du premier verset au dernier verset. Et des fois, c'est pareil dans nos vies. On a l'impression que Dieu... Voilà. Mais Dieu est là du début jusqu'à la fin. Qu'on puisse dire des amen, mais qu'on puisse le vivre. Qu'on puisse le vivre. C'est une question de cœur, tout ça. Je vais vous parler d'une autre histoire. Alors, je ne pensais pas autant témoigner. Donc, c'est une autre histoire qu'on trouve dans 1 Samuel. Mais je vais la raconter. C'est l'histoire de Kish. J'aime beaucoup cette histoire de Kish. Je vois Luc Perret rigoler parce que j'ai partagé régulièrement avec lui cette histoire de Kish. Alors, on n'allait pas sur Marmiton pour chercher une recette de Kish. Est-ce que vous savez qui est Kish ? Vous ne savez pas qui est Kish ? C'est le papa de quelqu'un qui va être très important. Le papa de Saül qui va devenir le premier roi d'Israël. Et Kish a perdu ses ânesses. Alors ça vous fait peut-être rire, mais à l'époque de perdre ses ânesses, c'est qu'il perdait un moyen de transport, il perdait le moyen de travailler, donc il perdait sa rentrée financière. C'était dramatique à l'époque. Hein ? C'était dramatique à l'époque. Et il va dire à son serviteur, et il va dire à Saül, « Allez chercher mes ânesses, là on est perdu, c'est dramatique, il faut absolument que vous retrouviez mes ânesses. » Donc c'est dans 1 Samuel 9. Donc eh bien, Saül, il part avec le serviteur, et ils partent pas juste une heure et demie, hein. Ils partent à travers les collines. Et même à un moment, quand ils arrivèrent à la région de Souf, donc au bout de plusieurs jours, Saül dit à son serviteur, « Rentrons à la maison, sinon mon père oubliera les ânesses pour ne plus s'inquiéter de nous. » Saül, il est là, au bout de quelques jours, il baisse les bras. Et qu'est-ce que va lui dire le serviteur ? Le serviteur répondit, « Je sais que dans cette ville, là devant nous, il y a un prophète, un homme réputé. Tout ce qu'il annonce arrive à coup sûr. Allons donc le voir maintenant. Il nous indiquera peut-être de quel côté nous devons poursuivre nos recherches. » Mais voilà, on va s'arrêter là. Donc en gros, Saül, il veut faire demi-tour, il baisse les bras. Et c'est le serviteur qui l'encourage à aller plus loin, qui dit « Ah écoute, on va tester une dernière chance. Dans ce village, il y a quelqu'un, on va essayer de trouver le prophète. » Et juste plus loin, donc on va aller directement au verset 18, Saül s'approcha, ils arrivent au village, s'approcha de Samuel et à la porte de la ville lui demanda « Indique-moi s'il te plaît où loge le voyant. »« C'est moi le voyant, » répondit Samuel. « Veuille passer devant moi et montons au lieu sacré. Pour aujourd'hui, vous mangerez avec moi. Demain matin, quand j'aurai répondu à toutes les questions que tu te poses, je te laisserai aller. » Quant aux ânesses, alors que Saül n'avait pas posé de questions, disparu depuis 3 jours, « Ne t'inquiète pas, on les a retrouvés. » C'est une réponse incroyable quand même. Hein. Il n'y a que dans la Bible qu'on va dire histoire comme ça. Mais pourquoi le prophète a pu parler comme ça ? C'est qu'on a un Dieu qui est omniscient, qui est omnipotent, qui connaît le passé, qui connaît le futur et qui reconstruit le présent. C'est que juste comme dans les films américains, 24 heures avant, or le jour précédent, le Seigneur avait averti Samuel de cette rencontre en disant « Demain, à la même heure, « Je te ferai rencontrer un homme de la tribu de Benjamin. tu le consacreras comme chef de mon peuple Israël, pour qu'il délivre les pouvoirs des Philistins. En effet, mon peuple m'a appelé au secours et j'ai vu dans quelle situation il se trouve. Et cette histoire, je l'aime énormément, parce qu'il y a des fois, on est avec nos problèmes, on a la tête sur nos problèmes, on a la tête sur nos ânesses, alors qu'on a juste un Dieu qui prépare quelque chose qui va arriver. Et je crois que des fois, il faut juste, on est avec notre livre de vie, il faut juste reculer un peu ce livre de vie. Et on commence à voir un mot, on commence à voir l'histoire. Et puis à la fin, on peut faire confiance à un Dieu qui nous prépare à un avenir. Des fois, il faut juste dire, oui, je répète, on a des problèmes. Oui, on traverse ça, ces galères. Mais au bout d'un moment, qu'on fasse confiance à un Dieu qui a déjà tout préparé pour nous. Il veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour nous. Et ça, il faut le proclamer. Et je trouve qu'il y a des fois, on est dans nos prières, et on prie, et il faut prier, et c'est important. Et on dit, oh Seigneur, je veux, regarde ce que je traverse, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et on tombe à côté de la grâce que Dieu veut pour nous, tellement on est omnubilé par nos réponses à nous. Par nos réponses à nous. Vous êtes d'accord avec moi ce matin ? Elles sont super interpellantes, ces histoires. Elles sont super interpellantes. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui, que ce soit ça, la solitude, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans la maladie, mais le Seigneur a une solution pour chacun d'entre nous. Mais tu as un rôle à jouer. Saül, il aurait pu ne pas écouter le serviteur. Il aurait pu dire, non, moi, je préfère retourner à la maison, j'ai pas confiance. Au bout d'un moment, on a notre foi à mettre en place. Et merci pour tout ce qu'on vit à l'Église. Merci pour tout ce qu'on nous propose. Mais au bout d'un moment, c'est entre toi et Dieu, qu'est-ce que tu veux vivre ? C'est entre toi et Dieu, qu'est-ce que tu veux vivre ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un Dieu qui veut résoudre la plupart de nos problèmes. Et je finirai par cette histoire que j'aime aussi énormément. C'est la veuve de Naïm là, qui enterre son fils. Et voilà, Jésus, il a un cortège de vie. Il vient de guérir des gens à distance. Il vient de délivrer des gens de démons et tout ça. Et il est avec tout son cortège et il croit ce cortège de mort. Hein. La femme, déjà, elle est veuve. Elle enterre son dernier espoir. Et il va voir. Il est pris de compassion en la voyant. C'est Jésus qui est avec nous. Il a ses entrailles pour nous. Il est pris de compassion. Et il va voir cette veuve et il lui dit « Ne pleure plus ». Il faut oser quand même dire à une femme comme ça qui est veuve, à une femme qui enterre son dernier espoir, ne pleure plus. Pourquoi ? Parce que juste après, il va mettre la main sur le cercueil et le mort s'assit. Et le mort revient à la vie. Je vais prendre un autre angle ce matin. Qu'est-ce que tu as mis dans ton cercueil avant de venir ? Je crois que Dieu, ce matin, veut redonner vie à ce que tu es en train d'enterrer. Et on met régulièrement depuis des années des choses dans un cercueil. On dit, allez, cette maladie, j'y crois plus. Ça fait 10 ans que je prie pour cette maladie, j'y crois plus. Ce matin, Jésus, il met la main sur le cercueil, il dit, j'ai une solution pour toi. Il veut redonner la vie. Tu te sens seul ? Jésus revient. Non, j'ai prévu quelque chose pour toi. Sois patient, sois patiente. J'ai prévu quelque chose pour toi. Mais rentre, mets-toi dans la position de fils et de fille. Mais j'ai prévu quelque chose pour toi. Ton couple, ouais, ma femme, elle n'était pas comme ça au début, c'est pas possible. Mon mari, mais il est impatient. Allez, et on remplit le cercueil. Jésus, il vient mettre la main sur ce cercueil. Il redonne vie entre ce que tu es en train d'enterrer. Je ne dois pas connaître la moitié des gens qui sont là ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais ce que je sais, je vais me répéter, mais c'est important. Jésus veut te rencontrer ce matin. Jésus a une parole pour chacun d'entre vous. Et commence à réfléchir si tu étais en face de Jésus là et tu dis qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Commence à lui parler là, au moment où je te parle. Vous savez, moi qui ai lu sur le bouddhisme, sur le Coran, tout ça, ce que j'aime dans le christianisme, en fait dans les autres religions, il faut faire des choses pour atteindre des différents niveaux. Et puis on croit en Dieu qu'on ne sait même pas si on pourra l'atteindre à un moment donné. Alors que nous, la différence, c'est qu'il nous a envoyé son fils qui, lui, est venu nous voir pour nous donner, qui a vécu tout ce qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas une douleur qu'on n'a pas vécue que Jésus n'a pas vécue. Mais c'est quand même une grâce, ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même une grâce. Alors je t'encourage vraiment à prier, à parler à ce Dieu qui est là, qui va te donner une solution. je ne sais pas quand, hein, je ne sais pas laquelle, mais il a une solution. Sa parole est créatrice. Il vient dans tes ténèbres, il dit que la lumière soit, et la lumière arrive. C'est ce Dieu-là auquel je crois, c'est ce Jésus-là que j'aime, et c'est ce Jésus-là que je voulais vous partager ce matin. Est-ce qu'on peut prier ? Ouais, Seigneur, comment ne pas te remercier ?